Bienvenue dans le troisième épisode du Débrief, la série de podcasts dans laquelle je vous emmène avec moi pour débriefer de l'actualité, la mienne ou celle du secteur, et discuter de différentes idées, concepts et notions. Si c'est votre première fois sur ce podcast, je m'appelle Antoine Gérard, je partage mes idées, analyses sur les vieux et la vieillesse depuis pas mal d'années, hein, je crois que ça fait 3 ou 4 ans, ce qui m'a valu d'ailleurs le petit sobriquet d'expert en vieux. Certes, c'est un petit peu méprisant, mais j'ai repris à mon compte cette expression qui est devenue ma marque de fabrique, et j'ai même créé Briscard, l'agence Briscard, expert en vieux. Plus récemment, j'ai cofondé Bistro Berta, une start-up qui veut remettre l'EHPAD au cœur du village en créant des tiers-lieux au sein des établissements. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle de Briscard parce que cette semaine est sorti deux belles productions auxquelles Briscard a participé et dont je suis assez fier. Alors je pensais pas qu'elles sortiraient coup sur coup, mais voilà, faisons deux en un, parce que finalement elles sont assez similaires dans la cible à qui elles s'adressent. Et donc aujourd'hui je vous propose qu'on parle de design, du X-Design pour les produits et services pour des vieux, plus précisément, et puisque c'est quand même le cœur de l'agence, même si c'est des termes qu'on n'utilise pas. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que cela veut dire, pourquoi c'est important, quel que soit le projet, d'ailleurs, hein, pas forcément un projet de vente de produits ou services, hein. C'est aussi important si on veut lancer un dispositif de prévention, par exemple, ou n'importe quel projet qu'on veut mener, c'est utile. Pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas de demander l'avis des gens pour faire de l'UX design? Est-ce que nous, on préconise à l'agence? Et pour si vous voulez donner envie aux gens d'acheter votre produit ou service. Deux précisions toutefois, nous on conçoit des offres, on ne conçoit pas des produits et services, c'est pour ça qu'on est une agence de marketing et pas une agence de design. Et deuxième élément, l'activité de l'agence est fortement ralentie, presque mise entre parenthèses, pour nous dégager du temps sur Bistro Berta. Parce qu'on ne peut pas être partout, et donc on a décidé de prioriser Bistro Berta. Pour le moment. Avant ça, petit bilan de la semaine et petit plan de la semaine qui vient. Je l'avais dit pour ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière, c'est en effet une grosse semaine qui m'attendait. Et j'ai bien sûr pas pu faire tout ce que j'avais annoncé, mais c'est normal, je me fixe toujours beaucoup trop de choses à faire. Au cas où je me découvrirais une force insoupçonnée, mais non, chaque semaine c'est pareil, pas de force insoupçonnée sur le placard, mais quand même pas mal de choses accomplies. Quelques points intéressants, en tout cas qui ont fait émerger quelques réflexions que je pense intéressantes à partager. J'ai visité deux EHPAD qui devraient accueillir un Bistro Berta dans les semaines ou les mois à venir. En tout cas, un premier dont l'accueil est prévu pour dans longtemps, puisqu'on s'intègre à un gros projet de rénovation. Rénovation qui commence bientôt, mais qui va durer 2 ans. Donc c'est pas pour tout de suite, mais nous on est là pour durer, on est là pour s'inscrire dans le temps long, donc on est patient, pas de soucis. Le deuxième projet, en revanche, le lieu est fait, c'est un ancien, je vais pas rentrer dans le détail du lieu, mais disons qu'il a juste besoin d'un petit coup de propre pour pouvoir accueillir du public. Par contre, évidemment, il n'est pas fait pour être un bistrot, donc on a pas mal de travaux pour le transformer en un bistrot. Mais ça pourrait aller assez vite et j'espère bien, encore une fois je vais sûrement être trop ambitieux, mais ça fait partie de qui je suis, j'espère bien une ouverture pour l'été. Ça m'a noté, ces deux visites m'ont fait faire quelques réflexions. La première, c'est que quand même venir sur place ça change tout. Les photos, les vidéos, les plans c'est bien, mais sur place on peut vraiment imaginer les choses. En tout cas, moi, je suis vraiment capable de me projeter beaucoup plus loin sur place que sur plan. Et donc, certaines hypothèses qu'on avait sur plan, qui nous semblaient intéressantes, s'avèrent finalement peu séduisantes en termes d'expérience client à venir sur place. Et donc ça, c'est un point intéressant, parce que c'est toujours compliqué de devoir se déplacer, de prendre le temps, C'est quand même du temps de travail qu'on bloque à chaque visite, et c'est aussi beaucoup d'argent, donc c'est compliqué, mais on va y aller. La seconde réflexion que je me suis faite, c'est qu'il existe quand même deux types d'architectes. des architectes à qui vous donnez un cahier des charges et qui s'astreignent à le remplir scrupuleusement. Si vous avez dit qu'il fallait ces 10 pièces-là, ils vont mettre ces 10 pièces-là séparées, sans réfléchir un petit peu au-delà. Et puis, il y a des architectes qui ont une vision, qui ont vraiment une intention derrière leur projet, une vraie envie de faire vivre quelque chose aux gens. Et ça devient... Mais c'est une remarque que je me fais de plus en plus au fur et à mesure que j'ai... que je vois les projets des architectes des uns des autres. Donc voilà. Autre point là quand même sur les architectes, je trouve qu'il y a une nouvelle tendance en ce moment chez les architectes du secteur. C'est ce que moi j'appelle l'effet IKEA. Je suis pas sûr d'être le seul à le plaider comme ça, mais vous allez vite comprendre. Avec toute la mouvance du virage domiciliaire, du les panels domicile, etc. On a de plus en plus des conceptions d'espace qui ressemblent à des magazines de décoration pour particuliers. C'est ça que j'appelle l'effet IKEA. C'est des couleurs vert pastel, taupe, crème, avec des petits tissus, des petits trucs, des choses qui sont... très joli dans un magazine décoration assez classique. Il y a juste quelques problèmes à ça. Le premier, c'est que les personnes qui vivent dans ces lieux-là, ce ne sont pas celles qui lisent ces magazines et qui sont sensibles à cette décoration. Ça, c'est le premier point. Donc, sur les faits, comme à la maison, ça ne fonctionne pas. Deuxième élément, faut vraiment arrêter de prendre les gens pour des cons. Dans le sens où c'est pas parce que vous faites comme à la maison que les gens vont se sentir comme à la maison et que ça suffit. C'est clairement pas une question de décoration. Et les gens sont très conscients qu'ils ne sont pas chez eux dans un espace cafétéria, salon, salle à manger de l'établissement. Ne serait-ce que parce que ce même lieu est fréquenté par des personnes qu'ils n'auraient pas invitées chez eux. Donc voilà. Et en fait, tout ça n'est pas transportant. Tout ça ne donne pas envie d'aller vers ce lieu. Il n'y a rien de... Il n'y a pas d'émotion, j'ai envie de dire. On ne se sent pas bien dans ce lieu-là. Puisqu'il est neutre, il est fait pour plaire à tout le monde. Mais comme chacun n'est pas tout le monde, et ben il plaît à personne. Donc voilà. Et en tout cas, nous, on a une stratégie qui est complètement, complètement opposée à ça. Nous, notre stratégie, c'est de faire du dépaysant, du dérangeant, du marqué, quelque chose où on ne vient plus ici par hasard, mais parce que on s'y sent bien, et quand on s'y sent mal, eh ben on n'est pas... on n'y vient pas. Et c'est pas plus compliqué que ça. Alors, ça peut paraître un peu stigmatisant, un peu dur, un peu excluant. Je crois pas. Je crois qu'au contraire, on apprécie tous être dans un endroit... Qui est différent, et en tous les cas, on y vient pour ça, même si c'est pas forcément les choix que nous on aurait fait pour chez nous, comme c'est pas chez nous, mais que c'est un lieu autre, un tiers lieu, ça, je pense que ça passe beaucoup mieux. En tout cas, c'est notre stratégie, et c'est pour ça que nos bistrots sont chargés, sont marqués, font une vraie coupure avec le style, avec la décoration du reste de l'établissement. Même si elle est très jolie, même si elle est neuve, même si tout ce qu'on veut, on va refaire la décoration de ce lieu-là pour qu'on soit transporté au moment où on y rentre, qu'il y ait un véritable dépaysement et que c'est ça qui compte. Donc voilà sur cette réflexion là qui m'a traversé cette semaine en visitant les lieux. Et ouais, les filles qu'il y a là chez les architectes du secteur. C'est assez dérangeant. En tout cas, moi, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Je trouve que c'est des réflexions qui sont pertinentes pour l'espace privé de la chambre, mais qui n'ont aucun sens, mais aucun sens, quand il s'agit de faire des espaces collectifs. Bref. Sujet suivant. Cette semaine, j'ai fait le 6e épisode de Mardi Géronto, qui est intitulé « 10 chiffres clés à connaître pour comprendre les enjeux du vieux, du vieillissement et... » Non. Pour comprendre le vieillissement et ses enjeux. C'était un super épisode. Je me suis vraiment donné à fond sur cette conférence. Je pense que j'ai été chercher à la fois des données qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui sont très éclairantes, bien plus éclairantes que les données habituelles. Et j'espère, en tout cas, avoir été suffisamment pédagogique pour rendre tout cela accessible à tout le monde. Je sais que les gens, les chiffres, en règle générale, c'est pas trop leur cam, mais encore une fois, je pense qu'il y a un niveau minimum, un seuil minimal à atteindre pour comprendre un petit peu les choses et pas dire des aberrations. Je vois quand même encore beaucoup de publications avec des énormes aberrations, des chiffres qui n'ont aucun sens au regard juste des chiffres de la démographie française, quoi. Donc c'est pour ça que je faisais cet épisode. Si vous n'avez pas pu assister à ce mardi Géranto sur 10 chiffres à connaître pour comprendre le vieillissement de la population et ses enjeux, eh ben, je vous incite à vous inscrire sur la newsletter geranto.substack.com puisque j'y partagerai mes slides. Ça c'est pour le bilan de la semaine, je sais pas combien de temps on parle, mais beaucoup trop. Cette semaine, je dois bosser sur un projet un peu secret. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais c'est important. Et ça me plairait vachement que ça aboutisse. J'ai un truc beaucoup moins drôle, mais important. C'est bien sûr ma compta 2023. J'ai horreur de ça, mais faut le faire. Faut que je propose officiellement à deux EHPAD qu'on les accompagne. Dans leur démarche de création d'un bistrot, ça implique pas mal de choses, hein. Quand on accompagne un établissement, il y a tout un tas de documents en fait. Il y a des choses à faire de part et d'autre, il y a des choses qui sont assez cadrées. Si on accompagne, c'est pour aller chercher l'argent qui nous manque quand il nous en manque, c'est pour faire venir les entreprises. Bref, ça demande un gros travail de notre part. Et donc, si on le fait, il faut que les choses soient un peu cadrées. Je sais que les premiers établissements qu'on accompagnait, on était un petit peu plus light sur ce côté-là. Et on l'a pas mal regretté. Donc maintenant, on essaye d'être un peu plus cadré pour pas perdre du temps inutile sur des choses qu'on se serait pas dit. Ça c'est pour ce point-là. Je dois prendre une décision sur un établissement, à savoir si est-ce que on pourra y créer un bistrot ou pas. Et donc là, il faut une étude de marché un petit peu plus approfondie. C'est pas si évident que ça, d'accord. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de facteurs qui feraient que on pourrait créer une boutique. On va dire que le lieu pourrait permettre son installation, mais il y a un certain nombre de facteurs qui nous font dire que même si on le crée, même si on a de la place, même si le lieu sera super, on va avoir du mal à faire venir du monde, tout simplement parce que les gens ne vont pas oser pénétrer dans l'enceinte de la structure pour y venir. Et pour le dire clairement, on est vraiment sur un ensemble assez gros de résidences avec différents pôles sur lesquels quand on y rentre en voiture ou à pied, on a vraiment l'impression de pénétrer dans presque un hôpital. Et donc est-ce que si on met un bistrot au milieu, les gens vont oser y venir? Et ben c'est pas sûr, et donc c'est ça que je dois déterminer pour savoir si oui ou non on y va. C'est une décision importante, parce que si on y va et que finalement la boutique ne fonctionne pas parce qu'on n'arrive pas à faire rentrer les clients à l'intérieur, ben on aura perdu beaucoup d'argent, déjà, beaucoup de temps, et puis on a un nombre de projets qu'on peut accompagner limité, et donc ça aurait été fait au détriment d'un autre. La plupart du temps, j'arrive à prendre assez vite ces décisions, si oui on y va ou oui on n'y va pas. On a construit un modèle d'étude de marché adapté au fait de créer un petit commerce de type bistrot. Et donc on voit assez vite les bons signes et les mauvais signes. Et donc d'habitude, on arrive à prendre une décision rapidement. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Donc, faut vraiment que je m'attelle à ça. Donc voilà. Autre sujet de la semaine. J'ai beaucoup de rendez-vous. J'ai beaucoup de rendez-vous, mais bon, là. Et j'ai un chapitre à écrire, un chapitre de livre à écrire. C'est pas mon livre, mais j'ai quand même pas mal de travail de rédaction dessus. Donc voilà. Pareil, je vous en dis pas plus, mais ça sort. Ah, j'espère que ça sort bientôt, ça. J'espère qu'on en arrive au bout, mais c'est long. Donc on verra bien. Voilà pour la semaine. Passons aux réflexions que je voulais vous partager cette semaine. Et pour vous redonner un tout petit peu de contexte, cette semaine est sortie deux contributions, enfin deux travaux avec la contribution de Bressiard. Le premier, c'est ce qu'on appelle un livre blanc, qu'ils appellent Cahier des tendances. Il est intitulé Mieux vivre demain et je co-signe ce travail avec Paris & Co. Alors, je suis co-signataire de ce travail. On l'a pensé à deux. On l'a réfléchi et construit à deux avec Léo de Paris & Co. Maintenant, moi, mon job a été vraiment de guider, d'éclairer certains enjeux, certains points sombres, et de faire des mises en relation avec les différents contributeurs. Donc, certes, je le co-signe, en réalité, le gros du travail est quand même fait par Léo et ses collègues, donc félicitations à eux. Je ne m'approprierai pas un travail dont je ne pense pas mériter 100% le côté de co-signataire. Alors c'est vrai qu'on l'a pensé ensemble, mais encore une fois, le gros du travail est fait par Paris & Co. Et je suis très content du travail fait, du rendu final. J'ai moi-même quelques éléments écrits, des choses qui ne sont pas forcément signées, tout ce qui est transition, introduction, etc. Et puis il m'a laissé la place pour faire deux éditos. Un premier édito qui est un travail de design fiction, où j'imagine le monde en 2040 du point de vue d'une personne âgée. Et un second édito, où là, je regarde comment l'IA va impacter nos métiers et je réponds à la question qui est la crainte principale. Non, l'IA ne va pas remplacer les fonctions de soins les plus terre à terre. Je vous laisserai le découvrir. En fait, le livre il est gratuit, mais c'est une réflexion vraiment intéressante et vraiment à contre-courant. Donc c'est intéressant. Et donc ça c'est quelque chose que je signe avec Bressiard, que j'ai fait dans le cadre de mes activités Bressiard. Et la deuxième chose, c'est ma participation à un podcast qui s'appelle Design Masterclass, qui est un podcast de design spécialisé là-dessus, qui ont voulu faire quelque chose sur les vieux, parce que c'est vrai qu'il y a peu de design sur les vieux. Et donc ils ont regroupé 4 designers, dont moi, sur cet épisode pour poser la question de c'est quoi un bon design pour les yeux. Alors vous allez me dire, mais Antoine t'es pas designer. Alors non, je ne suis pas designer, en tout cas je ne me suis jamais présenté comme tel, mais en fait c'est bien les méthodes qu'on utilise, et d'ailleurs c'est ça qui rend les choses intéressantes. Vous allez le voir dans le podcast si vous l'écoutez. Je m'exprime beaucoup plus que les 3 autres personnes réunies, avec des idées qui sont plus contrariantes que les autres, pour une raison très simple, c'est que moi, mon identité n'est pas celle d'un designer. Et donc facile pour moi de remettre en question ces techniques, ces outils, ces manières de penser du design, puisque mon identité est différente de celle du designer. Ce qui n'est pas le cas des 3 autres participants, qui sont des designers qui ont construit leur identité sur le fait d'être designer, et donc toute critique du design, de ses outils, de la manière de faire, est compliquée. Et ils sont beaucoup plus obligés de respecter un peu une vision un peu plus scolaire de ce qu'est le design. Donc ça en fait un épisode assez intéressant, à mon sens. Et avec, on a évidemment plein de points communs, hein, parce que... commençons, hein. Mais la pensée design, c'est quoi? C'est de se dire qu'on va penser les choses pour leur utilité et leur utilisabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un produit design, c'est un produit qui est utile, qui répond à un besoin et qui est utilisable par la personne. Certains rajoutent un troisième critère que moi j'intègre dans l'utilisabilité, qui est la désirabilité. Il faut qu'on ait envie de s'en servir. Moi je pense que la désirabilité c'est un peu surfait. Si le produit il est utile et utilisable, la désirabilité est la conséquence qui en vient. Mais ça se discute, évidemment. Mais c'est pas ça le cœur du sujet. Le cœur du sujet c'est de savoir comment est-ce qu'on design pour les vieux, est-ce qu'on peut designer pour les vieux, est-ce que ça a un intérêt, est-ce qu'il faut designer pour les vieux, etc. Et donc c'est toutes ces questions-là qu'on aborde dans le podcast. Et donc moi je ne vais pas traiter toutes ces questions, puisqu'elles sont déjà très bien traitées dans l'épisode. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on réponde à la question de ce qu'est le design, comment ça marche, à quoi ça sert, et comment moi je me sers de ces outils et techniques du design pour le faire. Et donc voilà. Et donc c'est parti. Qu'est-ce que le design? Quand on parle de design, on parle vraiment déjà du UX design, c'est-à-dire de design centré sur l'expérience utilisateur. C'est quand on cherche à faire passer à l'utilisateur par notre produit ou service un moment agréable et satisfaisant au regard de ses propres objectifs. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que l'évaluateur, le seul capable d'évaluer si le design est bon ou pas bon, c'est l'utilisateur pour qui il est destiné. Personne d'autre ne peut dire que c'est un bon ou un mauvais design. Seul l'utilisateur à qui il est destiné peut l'exprimer. Parce que on ne parle pas de design en tant que résultat esthétique de quelque chose. On parle du UX design. En tant qu'ensemble de principes et méthodes qui permettent de créer un produit utile et utilisé. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. À savoir que, bon, je vous le dis pour la science, mais on parle beaucoup d'usabilité. Et l'usabilité permet de réunir à la fois ce critère utile et utilisé, qui sont les deux phares qu'on doit suivre en tant que designer. Ça c'est le premier point. Aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est assez à la mode. On trouve de l'UX un peu partout. UX writing, UX design, design thinking, business design, etc. Tout ça grosso modo revient absolument au même. Ça veut dire réfléchir en termes d'utilisateur final et de ce que lui va apprécier ou non. Donc voilà. Un point quand même, quand on parle d'utilisateur final, c'est un petit peu faux. Enfin non, c'est complètement vrai, mais c'est pas le seul élément à prendre en compte. Parce que souvent, et c'est le cas notamment quand on fait des produits pour les vieux, on a des utilisateurs intermédiaires. Des prescripteurs, ce genre de public qu'il faut tout autant prendre en compte. Et donc c'est ça qui est important aussi, de se dire il faut aussi que le produit soit pensé pour eux et répondre à leur propre projet. D'ailleurs, tant qu'on est sur le sujet, je pense que la plupart des solutions qui sont aujourd'hui créées dans la silver economy pense s'adresser et résoudre un problème des vieux, mais en fait devrait davantage s'adresser au problème du prescripteur, parce que c'est lui qui va finalement décider de l'acte d'achat ou non du produit ou service. Bref, j'avance un petit peu. Pourquoi est-ce que c'est important? Je m'étais noté une autre idée clé. Puisqu'il faut faire pour les utilisateurs, il faut faire avec eux. Ça, c'est vrai que c'est la grande idée un peu de l'UX design, c'est qu'on ne peut rien faire sans les utilisateurs. Maintenant, attention, et on va y revenir tout à l'heure, on ne le fait pas n'importe comment. Grosso modo, ce qui différencie un bon designer d'un mauvais designer, c'est que le bon designer va certes écouter la personne, mais va pas suivre ce qu'elle lui demande de faire, quand le mauvais designer, lui, se contente d'appliquer bête et méchamment ce qu'il a entendu dans la bouche de ses utilisateurs. Mais on y reviendra. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? C'est justement parce que ces méthodes, ces principes et méthodes sont ce qui nous garantit que le produit sera utile et utilisé. Pour pouvoir approfondir vraiment le côté utile, le designer va se centrer sur la douleur, sur le travail qu'il y a à faire pour pouvoir identifier la bonne solution et la faire de la bonne manière. Et ensuite, on va se concentrer sur le fait qu'il soit utilisé et donc se concentrer sur les usages, sur ce que la personne est capable de faire, a envie de faire, comment est-ce que ça peut s'intégrer dans son quotidien ou pas. Et toutes ces questions-là vont permettre que ça soit utilisé ou non. Et donc c'est ces deux éléments-là qu'on cherche. Ça va permettre de répondre à deux questions essentielles. Quel produit pour créer et comment le distribuer? Grâce à une seule question qui est: à qui j'adresse ce produit ou pour qui est fait ce produit? Parce que là, il y a un point qui est vraiment très important, c'est que l'UX design n'est pas du design universel. On ne produit pas pour tous, on produit pour un groupe, un utilisateur particulier, quelque chose de spécifique, on répond à une douleur. Et en faisant ça, alors peut-être que notre produit aura une chance de devenir universel, mais c'est absolument dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. J'ai coupé un peu brutalement précédemment sur l'idée que le design, l'UX design était par définition le contraire du design universel, dans le sens où, dans une approche du UX design, on va vraiment se concentrer sur qui est l'utilisateur final du produit et faire en sorte que tout soit fait pour lui. Ce qui est une démarche, on va dire, philosophiquement inverse au design universel, qui est que le produit doit être pensé pour tous. Néanmoins, cette approche de design universel, c'est un peu caricatural ce que je dis en disant que c'est une approche pour tous et c'est ça. Parce que finalement, le design universel est aussi, quand il est bien fait, un design pensé pour que même des personnes avec des capacités limitées puissent utiliser le produit. Et donc si on fait une approche UX design pour des personnes par exemple qui ont des difficultés de prise en main et qu'on conçoit un produit comme ça, et par définition il va pouvoir être universel puisque les personnes qui en sont qui ont le plus grande difficulté à utiliser le produit, finalement c'est pour eux qu'on l'aura d'abord fait et donc tout le monde pourra s'en servir. Maintenant, la spécificité du UX design, c'est évidemment de ne pas se concentrer à l'usabilité du produit, mais vraiment de réfléchir à est-ce que le produit est le bon produit pour la personne, est-ce qu'il résout son problème, et ensuite de se demander comment faire en sorte d'intégrer ce produit dans les usages de la personne. On en arrive donc à la troisième grande catégorie de questions, qui est le comment faire, qui est vraiment le cœur de la démarche UX design, en fait, la méthodologie et les principes sous-jacents. Le premier principe, et je vous l'ai déjà donné, c'est de faire pour une catégorie d'utilisateurs bien spécifique. Et qui dit pour nécessite de faire avec. Et c'est là en fait le cœur de l'enjeu, c'est comment faire avec les utilisateurs finaux, puisque ce sont eux qui possèdent la clé de compréhension de ce qu'on doit faire, sans pour autant avoir une posture très caricaturale qui consisterait à mon utilisateur demande si, alors je fais si. Et donc tout l'enjeu de ces méthodologies, c'est bien évidemment de aller au-delà de ce qui est demandé pour en comprendre le sens et fournir une vraie proposition design qui, sans répondre sans faire ce que la personne nous a demandé, répond parfaitement à la fois à ses besoins et à ses usages. Nous, on a l'habitude de dire, et c'est un slogan que vous pourrez trouver sur le site internet, vous pourrez trouver sur pas mal de productions, qui est toujours écouter, jamais croire, tout analyser. Et c'est vraiment ça, cette idée-là, c'est que certes, on va avoir besoin d'écouter la personne, mais on ne doit jamais croire ce qu'elle nous dit. Et donc, c'est pas parce que Madame Martin nous demande X qu'on doit lui fournir X, parce que probablement que si on lui fournit X, elle n'en voudrait pas. Le cas le plus significatif qu'on peut avoir à constater, on va dire, dans notre secteur, c'est justement quand on écoute la demande d'un utilisateur et qu'on lui fait spécifiquement ce qu'elle a demandé et qu'elle ne veut toujours pas l'acheter. Alors ça arrive très très fréquemment sur plein de produits, sur plein de choses. Maintenant, les établissements, hein, on demande aux résidents ce qu'ils veulent manger ou ce qu'ils veulent faire comme sortie. Le jour J, il n'y a plus personne qui s'inscrit ou plus personne qui veut manger ça. Donc voilà, assez typique, mais c'est ça qui compte. Alors, comment on fait pour toujours écouter mais jamais croire? Le premier point à comprendre, c'est que la personne, elle ne veut pas forcément nous mentir à nous, mais elle se ment d'abord à soi-même. C'est-à-dire qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle a envie ou elle n'est pas clairvoyante sur ce qu'elle a besoin pour résoudre son problème. Par contre, si elle n'est pas clairvoyante pour imaginer la solution, qui reste au travail du designer, elle est évidemment la personne la plus adaptée pour vous parler de son problème, des difficultés ou de ses objectifs personnels. Et c'est d'abord ça qu'il faut aller chercher dans une démarche de recherche utilisateur, du X-Recherche, qui est, on va dire, la première étape avant la conception, qui est vraiment de comprendre à qui on s'adresse, quel est son besoin et comment on va rentrer dans ses usages. C'est vraiment d'aller chercher cette dimension. J'ai perdu le fil. Alors attendez. C'est vraiment d'aller. Voilà. C'est ça que je vous disais. La personne, si elle n'est pas forcément consciente de la solution qu'elle aimerait et qu'elle accepterait, qu'elle n'est pas clairvoyante à ce point-là, elle reste quand même très, très clairvoyante sur son problème, sur ses objectifs personnels, sur ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Bref, on peut quand même aller chercher dans l'entretien ces éléments-là. Donc ça c'est la première chose. La personne ne nous ment pas à nous, elle se ment elle-même, donc il ne faut pas lui demander son avis, il faut aller chercher un peu plus profondément. Et principalement, en gros, si on devait réduire le nombre de questions à poser à une seule ou deux, ça serait quel est le problème et qu'est-ce qui se passerait si on arrivait à résoudre ce problème. Voilà, ça en gros, ce sont les deux questions clés qu'il faut réussir à intégrer dans vos démarches de recherche utilisateur. Et c'est ça qui compte. Un point intéressant là-dessus, c'est ce qu'on appelle le syndrome Arte. Quand on demande aux Français quelle est leur chaîne préférée, ils répondent toujours que Arte. Mais en réalité, si on regarde les chiffres d'écoute, c'est pas Arte qui regarde plus, c'est bien sûr beaucoup plus de TPMP. Ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire que il faut autant que possible écouter ce que disent les actes, parce que souvent les actes parlent plus fort que les mots. Et donc, une bonne démarche de recherche utilisateur, c'est aussi de regarder ce que les gens font concrètement, réellement, dans une situation donnée. Et ça, c'est bien plus instructif que ce qu'ils nous disent faire de cette même situation donnée. Donc voilà. Autre point qui permet de passer cet élément, enfin, qui permet d'aller chercher ce que les gens veulent vraiment. Si on cherche à donner des concepts, c'est les concepts de pain et de job to be done. Ce sont deux concepts un peu clés que je vais vous expliquer rapidement, qu'il faut comprendre et qui sont les choses que vous devez aller chercher. La question de la pain, en anglais c'est douleur, c'est c'est vraiment ça le point qu'il faut aller chercher. Au-delà du problème, du besoin, de tous ces éléments-là, on a tous une multitude de besoins, de problèmes qu'on aimerait régler, mais très peu parmi ceux-là sont vraiment douloureux, dans le sens, nous apportent un élément très, très contraignant, ou une vraie douleur, pas forcément physique, hein, mais quelque chose qui nous apporte un vrai point négatif. Et donc ça, c'est un concept important. Ce qu'on va chercher autant que possible, c'est donc ce qu'on appelle ces pains, ces endroits qui font mal et sur lesquels il y a une vraie utilité. Si je prends un exemple assez simple, il y a plein de dispositifs dans la Silver Economy qui proposent des applications, par exemple, pour améliorer les capacités cognitives des personnes qui sont en début de maladie d'Alzheimer. Il y a bien un problème, un besoin, qui est celui de progresser, mais est-ce qu'il y a une douleur ? Et bien c'est ça qu'il faut réussir à positionner. Par exemple, si je prends cet exemple, la douleur, elle est beaucoup plus aiguë chez un conjoint qui cherche à qui on dit vous devez stimuler votre mari, etc., que sur un autre profil. Et donc le produit est plus intéressant, enfin, disons que la douleur étant plus aiguë chez un des utilisateurs que l'autre, c'est plutôt pour celui-là qu'il faut faire la démarche de design. Ça c'est le premier concept, c'est le concept de pain. Le second, c'est le concept de job to be done. Job to be done, c'est le résultat produit par l'action de la solution. Grosso modo, une expression qui est bien connue en design, c'est on n'achète pas la perceuse, on achète les trous dans le mur. On pourrait aller plus loin en disant qu'on n'achète pas la perceuse ni les trous dans le mur, on achète la décoration que ça permet de faire et donc la personnalisation de son logement. Et donc ça c'est un point important sur le sens vraiment de ce qu'on va chercher à faire. Et donc c'est bien ça qu'il faut réussir à aller chercher. Et encore une fois, la personne elle ne peut pas formaliser sa solution, quelle forme cela doit prendre. Par contre, elle est tout à fait en mesure de formaliser le résultat attendu d'une solution, de ce pourquoi elle serait prêt à acheter. Ça c'est le point important. Dernier point sur cette question du... Il va falloir que j'accélère un petit peu. En fait, je vais conclure là-dessus, parce que finalement, il y a pas mal de choses et je pourrais en rediscuter, surtout qu'on prépare une formation, nous, chez Briscard, sur ces questions-là. Quelque chose qui permettra d'aider vraiment tous les entrepreneurs de la Silver Eco à aller à être plus juste. Et donc, comme je dois vous laisser, je vais vous laisser sur une dernière idée, qui est celle que le bon design, c'est d'abord celui qu'on achète, et que la seule vérité, c'est le marché. En fait, si les gens ne sont pas prêts à dépenser de l'argent pour votre solution, c'est qu'ils n'y voient pas la valeur. Peut-être parce que c'est la mauvaise solution, ou peut-être parce que la solution n'est pas bien packagée, mais quoi qu'il en soit, vous avez là un problème de design, un problème de recherche client. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est à ça que sert le design principalement. Et donc, l'argument ultime de ce qu'est un bon design, c'est celui qu'on achète. Si les gens ne sont pas capables de faire un acte d'achat face à votre produit, c'est que vous n'êtes pas encore tout à fait bon dans le design. Donc continuez à affiner. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je suis désolé d'avoir un peu entrecoupé l'épisode, mais je pense que ça va être toujours très écoutable. En tout cas, j'essaierai de vérifier avant de vous le publier. Et donc, je vous incite donc à aller écouter ce podcast qui n'est pas de moi, hein, où je suis juste un intervenant, qui s'appelle le Design Masterclass. Je vous mets le lien en description. Sur ce, à la semaine prochaine. J'aurai certainement plein de choses à vous raconter. Et donc, très bonne semaine à vous.